Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi et demi. Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Le calendrier de levée des restrictions sanitaires, il court jusqu'à la fin du mois de février. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va trop vite? Ça va pas assez vite? On ira dans les rues de Strasbourg. Encore deux semaines de télétravail obligatoire, c'est trop, estiment les salariés et les chefs d'entreprise, nous dira Maud Descamps. On va revenir sur les mauvais chiffres de l'immigration. Que ferait Valérie Pécresse de mieux qu'Emmanuel Macron? Je poserai la question à son directeur de campagne qui sera avec nous en direct, Patrick Stefanini. Et puis, la tendance météo, Anissa Haddadi, avec un temps plus agréable au sud qu'au nord aujourd'hui.
Oui, en particulier au bord de la Méditerranée et dans les Alpes. Hein, c'est là que la journée est la plus belle. Le soleil brille, mais le vent souffle fort. Attention, on a du Mistral jusqu'à 90 km/h. Ailleurs, pas mal de nuages qui restent très nombreux cet après-midi et des températures en baisse.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Lundi prochain, c'est la mise en place du pass vaccinal qui va prendre la place du pass sanitaire. Le 2 février, la fin des jauges et la fin de l'obligation de télétravail. Le 16 février, on rouvre les discothèques, bon, et on pourra à nouveau consommer debout dans les bars. Déjà, je voulais qu'on aille dans une grande ville pour savoir comment vous accueillez ces mesures et ce calendrier annoncé hier soir par le Premier ministre. Mélina Fachin en direct d'une rue commerçante de Strasbourg. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce que vous disent les gens que vous avez croisés ?
Alors évidemment, ces allègements de restrictions réjouissent certaines personnes, notamment Bertrand, qui a hâte d'enlever son masque en extérieur à partir du 2 février.
Ouais, je pense que c'est bien, mais surtout dans des endroits vachement spacieux et séparés où ça n'a pas trop de sens. Je comprenais l'idée dans les rues un peu plus closes ou bondées, mais c'est vrai que là, dans des cas comme ici, je me réjouis de pouvoir le retirer.
Raphaël, sa sœur, a plutôt retenu une autre annonce.
J'ai retenu que les discothèques allaient rouvrir le 16 février. C'est vrai que pendant deux ans là, de ne pas pouvoir trop sortir, ça fait que là je me dis c'est bon, on va pouvoir souffler et vraiment sortir. Après, je sais qu'il y a quand même des risques. Donc voilà, mais je me réjouis, oui.
Mais je constate que beaucoup de Strasbourgeois sont plus mitigés, notamment sur la fin de l'obligation du télétravail. Et puis surtout, ils estiment prématuré l'allègement des mesures sanitaires.
Je pense que c'est un peu trop tôt en fait. La situation est encore trop compliquée, il n'y a pas lieu d'être en fait.
C'est vrai que ça paraît un petit peu contradictoire entre les mesures d'allègement qui sont prévues et le pass vaccinal qui se met en place. Tout d'un coup, c'est extrême.
Moi, j'ai eu le Covid, j'ai fait un mois d'hôpital. Alors moi, j'ai une peur bleue maintenant du Covid. Il faut rester très prudent, madame.
D'autant qu'à Strasbourg, le taux d'incidence est toujours très, très élevé. Il frôle les 4000 cas pour 100 000 habitants.
Voilà, les avis sont partagés. Il y a ce monsieur qui dit qu'il faut être très prudent avec le Covid. La jeune femme qui est ravie de pouvoir retourner en discothèque. Merci beaucoup, Mélina. Alors, je ne sais pas si vous faites partie des 8 600 000 personnes qui ont regardé Jean Castex à la télévision hier soir. Vous l'avez peut-être écouté à la radio. Toujours est-il, il a conditionné cette levée des restrictions à une amélioration de la situation sanitaire. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Quels sont les arguments sanitaires du gouvernement pour justifier ce calendrier?
Alors tout d'abord, le variant Delta, plus susceptible de provoquer des formes graves, ne représente que 2% de la totalité des cas. Aujourd'hui, 97% des malades sont infectés avec Omicron. Alors même si ce variant entraîne une hausse des hospitalisations, les durées sont plus courtes. En revanche, ça amorce un début de décrue en soins critiques. Sur les 7 derniers jours, le nombre moyen d'entrées quotidiennes dans ses services a diminué de 15%. Autre indicateur, le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, diminue en Île-de-France. Le gouvernement espère le même scénario sur tout le territoire.
Alors ça, c'est la position donc du gouvernement. Le conseil scientifique n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein.
Oui, la vague Omicron n'est pas terminée, rappelle le conseil scientifique. L'impact de cette cinquième vague va se poursuivre durablement jusqu'à mi-mars dans les hôpitaux. Il y a actuellement près de 4 000 patients en soins critiques et près de 28 000 hospitalisés pour Covid, des hospitalisations qui augmentent chaque jour en moyenne, 2 500 nouvelles admissions quotidiennes. Seule la réduction des contacts et le maintien des gestes barrières pourraient permettre de contenir l'impact sur les hôpitaux, a martelé le Conseil scientifique.
Yasmina Katou, merci Yasmina. On est en direct avec Sacha Houlier. Bonjour monsieur le député.
Bonjour.
Député LREM de la Vienne. Pourquoi annoncer dès maintenant ce calendrier qui va un peu trop vite selon les scientifiques? On vient de l'entendre, et selon certains Français aussi.
D'abord, c'est un calendrier prospectif, c'est-à-dire qu'il prévoit des dates au 2 février et au 16 février, en l'état dans 2 semaines et dans 1 mois. Et donc l'idée est de se dire qu'aujourd'hui, on a un état de la situation, un état qui est délicat, mais avec des constantes qui ont été rappelées, c'est-à-dire un variant Delta qui est en très forte baisse et un variant Omicron qui, lui, est encore extrêmement actif, mais qui est plus contagieux et moins sévère. Et donc, avec les outils qu'on vient de mettre en place par la loi, le pass vaccinal qui entre en vigueur lundi prochain, avec les éléments dont on dispose et avec la baisse des entrées en état critique à l'hôpital, eh bien on a l'occasion de se dire qu'est-ce qui peut être levé dans les 15 jours à venir. Alors, on rappelle, hein, pour le 2 février, c'est la fin des jauges dans les grands établissements recevant du public, la fin du masque obligatoire en extérieur et la fin du télétravail. Et puis ensuite, une deuxième étape, là encore avec des professionnels qui demandaient à savoir finalement quand est-ce qu'elle allait pouvoir réouvrir les discothèques, quand est-ce que les concerts pourraient reprendre debout ou les bars pourraient à nouveau voir la consommation debout en leur sein. Bon, bien tout ça, c'est une façon de dire on a des outils, on a les moyens de prévoir et de prévenir ce qui va être fait.
C'est un calendrier sanitaire uniquement ou un petit peu politique également? Un calendrier destiné à préparer le terrain pour l'annonce probable de candidature d'Emmanuel Macron en février, quand ça commencera a priori à aller mieux. Vous entendez cette petite musique, qu'est-ce que vous dites?
Que je vois mal comment on pourrait tirer parti d'une situation qui est une situation critique. C'est une situation sanitaire qui nous frappe tous et qui handicape tout le monde. Je pense que tout le monde, ce serait bien passé de ce variant Omicron, majorité comme opposition, et donc c'est pas vraiment politique. Ce que je peux ajouter par ailleurs, c'est qu'il y a aussi des endroits qui sont extrêmement tendus, où il y aura des consultations très importantes sur la levée du port du masque à l'école pour la rentrée en février, sur le report des évaluations, encore une fois, à l'école également, ou par contre sur le maintien des épreuves de spécialité du bac au mois de mars, pour lesquelles les consultations auront lieu à la fois avec les centrales syndicales et avec les élèves qui sont les premiers concernés.
À propos du pass vaccinal, donc qui va entrer en vigueur lundi prochain, est-ce qu'il pourrait être maintenu pendant l'élection présidentielle?
Ce qu'on a toujours dit, c'est que là, on en a besoin aujourd'hui pour protéger d'abord les personnes qui sont susceptibles de contracter le virus, et puis surtout pour protéger nos services de santé, qui risquaient d'être débordés parce que il y avait un afflux très important de personnes non vaccinées. Ce qu'on a toujours dit aussi, c'est que cet outil qu'on estime nécessaire aujourd'hui, dès qu'on pourra s'en passer, on s'en passera. C'est avant l'élection présidentielle, on s'en passera avant l'élection présidentielle.
Mais si c'est après, on pourrait voter avec un pass vaccinal en vigueur.
Étant précisé que le pass vaccinal ne serait pas exigé dans les bureaux de vote, comme il ne l'est pas par
heureusement
principe dans les. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant.
Effectivement.
Et donc il serait pas exigé non plus dans les réunions politiques des partis qui ne le décident pas.
Donc on pourrait voter selon vous sous pass vaccinal, même si. Heureusement, on ne demanderait pas un pass vaccinal pour rentrer dans les bureaux de vote. Merci beaucoup, Sacha Houlier.
Merci à vous.
Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, député La République En Marche de la Vienne. Le gouvernement a donc annoncé que le télétravail était prolongé, obligatoire, hein, de 2 semaines pour des raisons sanitaires. Maud Descamps, si certains s'en réjouissent, d'autres, au contraire, commencent à trouver le temps long. D'ailleurs, aussi bien du côté des salariés que des chefs d'entreprise, hein.
Oui, je vais vous donner un exemple, hein, celui de Jacques Thibon. Il est le PDG d'un groupe de plus de 700 salariés spécialisés dans le numérique. Et clairement, hein, ces 2 semaines de télétravail supplémentaires vont impacter son chiffre d'affaires.
On est à peu près même pas un tiers de l'activité normale. Les projets ne peuvent pas avancer, car bien souvent, pour faire avancer les projets, il faut des groupes de travail qui se font ou des échanges qui doivent avoir lieu avec les clients, et c'est beaucoup plus difficile d'organiser cela.
Une lassitude également ressentie par certains salariés, à l'instar de Martin, qui témoigne sur les réseaux sociaux. Quand on habite dans 40 mètres carrés, difficile de couper le soir entre le travail et la vie privée. Besoin de voir les collègues, ajoute-t-il. Et puis, il y a ceux qui refusent, coûte que coûte, le télétravail. C'est le cas de Morgane, elle est ingénieure informatique.
J'ai fait une demande auprès des RH pour venir parce que je ne pouvais plus travailler chez moi. Et du coup, les RH m'ont dit « Ok, tu peux venir 3 fois par semaine ». Une fois sur place, je me suis rendu compte que personne ne vérifiait rien. Et du coup, j'ai décidé de venir tous les jours. Et ça fait plus d'un an que je viens tous les jours et que je ne suis même pas au courant de ce que j'ai le droit de faire ou pas.
Le gouvernement prévoit des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, avec une amende de 500 euros par salarié.
Maud Descamps, merci Maud. Une petite question, tiens. Est-ce que vous savez combien d'autotests ont été vendus par les grandes surfaces? Réponse, 16 900 000, près de 17 millions d'autotests vendus entre le 28 décembre et le 16 janvier. Des autotests qui sont vendus dans les supermarchés avec une autorisation exceptionnelle du gouvernement. Attention, valable jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier. Valérie Pécresse avait quitté les Républicains, vous vous en souvenez peut-être, sous sa présidence, car elle le trouvait trop à droite. Candidate, elle le retrouve aujourd'hui. C'est Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils se retrouvent tous les deux aujourd'hui au Puy-en-Velay. Alexandre Chauveau, c'est vous qui suivez Valérie Pécresse pour Europe 1. La candidate a besoin du soutien de Laurent Wauquiez.
Oui, en tout cas, son déplacement s'inscrit dans sa démarche de rassemblement entamée dès sa désignation au Congrès début décembre. Oubliez les fractures du passé, la droite est de retour, ne cesse de clamer Valérie Pécresse. Une droite rassemblée donc autour d'elle et la candidate de saluer Laurent Wauquiez, un grand président de région, dit-elle, avant de préciser son rôle dans la campagne.
Il est président du comité de soutien des élus aux côtés de Gérard Larcher, donc c'est évidemment un rôle pilier dans cette campagne, celui de mobiliser l'ensemble des élus autour de ma candidature.
Laurent Wauquiez, assez discret jusqu'ici et dont on disait les relations avec Valérie Pécresse plutôt fraîches, assure pourtant prendre toute sa part dans la campagne.
Valérie a fait un début de campagne qui était très important, qui consistait à tourner les pages du passé. Et accueillir Valérie ici est un symbole. C'est le symbole de mon soutien et de mon engagement total aux côtés de Valérie.
Les deux présidents de région rassemblés aujourd'hui au Puy-en-Velay pour clore une semaine axée sur la ruralité. Après l'apprentissage et le handicap en Corrèze et dans le Lot, elle fait aujourd'hui des propositions sur les déserts médicaux.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Il est 12h41. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va revenir sur ces chiffres de l'immigration. Ils ne sont pas bons. Ils ont été publiés, on va dire, discrètement par le ministère de l'Intérieur. Mais nous, on va tout vous dire dans un instant avec Louis Dragnel. Restez bien sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h43, c'est un des sujets prioritaires des Français pour la présidentielle. L'immigration, le ministère de l'Intérieur vient de publier, je vous le disais discrètement, les chiffres pour 2021, l'année dernière. Et ils ne sont pas bons. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. On va se pencher sur ces chiffres avec vous. Par exemple, les naturalisations ont augmenté de 50% l'année dernière, 94 000 naturalisations.
Oui, et puis quand on regarde le détail, surtout quand on s'intéresse vraiment à toutes les lignes de ces chiffres de l'immigration, et donc uniquement pour la partie immigration légale, je ne vous parle même pas de l'illégale, en 2021, notamment en raison de la crise afghane, le ministère de l'Intérieur a recensé 104 000 premières demandes d'asile, une augmentation de 28,3% par rapport à 2020, une année qui avait connu une baisse en raison du Covid. Ensuite, pour ce qui est des premiers titres de séjour délivrés à des étrangers, on retrouve à peu près les mêmes chiffres qu'en 2019, qui avaient été jugés en interne au gouvernement très mauvais. Et donc, en 2021, plus de 270 000 premiers titres de séjour délivrés, ça représente l'équivalent de la population de la ville de Strasbourg, qui est donc entrée en France légalement en une année. Un point important tout de même, le ministère de l'Intérieur insiste sur l'effet du Brexit, qui a entraîné la délivrance de 96 000 titres de séjour à des ressortissants britanniques. Et pour terminer, les éloignements d'étrangers ont augmenté de 8,2%, mais ça ne représente en valeur absolue que 17 000 expulsions réellement effectuées. C'est très peu et c'est l'équivalent de la moitié des expulsions de l'année 2019, une année qui avait été jugée mauvaise, comme on vient de le dire.
Alors Louis, on a l'impression que c'est un problème insoluble. À chaque élection, chaque candidat vient avec ses solutions, essentiellement à droite, j'allais dire. Et puis, on voit ces chiffres, on est en 2021. Est-ce qu'il y a une vraie solution ? Que se passe-t-il ?
Bien, c'est vrai, quand on regarde ça, en fait, il y a une forme de fatalité. En fait, tout le système migratoire français est à bout de souffle. Il faut tout reprendre à zéro et il faut le dire, notre droit français ne permet pas d'être efficace. Emmanuel Macron a tenté beaucoup d'initiatives. Par exemple, il a voulu faire en sorte que les demandes d'asile soient traitées dans les pays se trouvant à l'extérieur de l'Union européenne. Ça ne fonctionne pas, notamment parce que des pays comme le Maroc, par exemple, refusent de se transformer en hotspot et on peut les comprendre. Emmanuel Macron a ensuite voulu augmenter la durée de rétention des migrants, le temps d'étudier leur dossier, mais ces centres disposent de peu de place et souvent, les procédures administratives sont tout simplement cassées. Le chef de l'État a menacé de conditionner les aides au développement des pays qui ne reconnaissent pas leurs ressortissants via ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires. Il a également divisé par deux les visas délivrés à l'Algérie et au Maroc. Encore une fois, très peu d'impact. Alors je peux vous dire que les préfets que j'ai appelés sont un peu désespérés. Avec notre droit actuel, on vient de le lire, et les traités que nous avons signés, expulser un clandestin relève aujourd'hui du miracle. Je vous donne trois exemples pour terminer. Un clandestin visé par une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire une expulsion. Eh bien, s'il refuse de faire deux tests PCR, on ne peut rien faire. Si un préfet décide d'expulser des clandestins qui occupent un squat, il ne le peut pas non plus parce que l'interpellation peut être jugée déloyale. Et enfin, un dernier, et après je vous rends la parole, comme la police aux frontières ne dispose que d'un seul avion, la plupart du temps, les expulsions se font avec des avions de ligne et le pilote peut refuser l'embarquement pour des raisons de sécurité, ce qui entraîne souvent une annulation de la procédure.
Merci beaucoup Louis Dragnel. Patrick Stefanini avec nous. Bonjour Patrick Stefanini. Directeur de campagne de Valérie Pécresse et spécialiste de ces questions d'immigration. Déjà, en quelques mots, comment est-ce que vous jugez ces chiffres publiés ce matin ?
C'est la débâcle pour Emmanuel Macron, alors que nous sommes maintenant à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est l'échec complet de sa politique migratoire depuis 5 ans. Si je devais utiliser une comparaison sportive, je dirais que nous sommes enfoncés dans tous les compartiments du jeu. Jamais ou presque on a délivré autant de titres de séjour. Le record absolu qui est 2019 est presque égalé. On retrouve un niveau de demande d'asile supérieur à 100 000 personnes et on sait que l'essentiel de ces demandeurs vont être déboutés, mais on sait aussi qu'ils resteront sur le territoire français. Et enfin, il y a deux éléments nouveaux et particulièrement préoccupants. Il y a un effondrement du nombre des éloignements de clandestins. Quasiment, ce nombre est divisé par deux en 2021 par rapport aux années précédentes. Et il y a une augmentation inattendue du nombre des naturalisations, ce qui est un très mauvais signal adressé au pays d'origine.
Mais alors avec Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous feriez qui changerait véritablement la donne par rapport à ce qu'il fait ? Vous reviendriez sur le droit du sol, sur le regroupement familial ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ?
Valérie Pécresse, elle s'est donné les moyens, dès qu'elle sera élue présidente de la République, de modifier radicalement la donne. D'abord, elle changera la Constitution pour mettre en place une politique de quotas. Et ces quotas, ils seront définis à la fois par pays et par type d'immigration. Ensuite, elle réformera profondément la procédure d'asile. Si on veut que cette procédure ne se traduise pas par le fait que les déboutés se maintiennent en France, il faut que la demande d'asile soit déposée et instruite avant que l'étranger n'ait pénétré sur le territoire français. C'est ce que nous faisons à Roissy, c'est ce que les Grecs font dans les îles qui se trouvent à 1 ou 2 kilomètres de la Turquie et que Valérie Pécresse est allée visiter le week-end dernier. Il faut changer radicalement la donne en matière de gestion des demandes d'asile. Ça, c'est le premier point, c'est le cadre juridique. Il faut ensuite ouvrir un dialogue d'ensemble avec les pays d'origine, et notamment avec les 3 pays du Maghreb.
Mais c'est ce que fait Emmanuel Macron, Patrick Stefanini. Il a envoyé son ministre de l'Intérieur.
D'abord, il ne le fait pas lui-même. Il délègue cette compétence à son ministre de l'Intérieur. Ah, et dans ces 3 pays du Maghreb, on ne connaît que le rapport de force, on ne connaît que le chef. Le roi du Maroc, il parle au président de la République française. Et dans un pays comme le Maroc, si le roi du Maroc ne dit pas on va changer de politique à l'égard de la France, rien ne se produit. Emmanuel Macron ne s'est pas rendu au Maroc pour parler de ce sujet avec le roi du Maroc. N'allez pas chercher plus loin la cause de nos difficultés. Et ce qui vaut pour le Maghreb, pour le Maroc, vaut pour l'Algérie et vaut pour la Tunisie. Donc il faut ouvrir avec ces pays au niveau du chef de l'État. Il faut ouvrir une négociation globale et remettre en cause nos accords bilatéraux en matière migratoire avec ces pays.
Merci beaucoup Patrick Stefanini, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h51, restez bien sur Europe 1 dans un instant. On va parler de Sepp Blatter, invité exceptionnel d'Europe 1 ce week-end, et puis du match Lyon-Saint-Etienne de ce soir. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53, Sepp Blatter, invité exceptionnel ce week-end dans Europe 1 Sport, dès ce soir 20h pour les premiers extraits de cette interview, et dimanche en intégralité à 20h également. Sepp Blatter, c'est l'ancien patron omnipotent de la FIFA, évidemment, durant près de 20 ans. C'est vous, Cyril de la Morinerie. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Qu'il avait interrogé avec Lionel Rosso. C'est un miraculé. Il a lutté pendant des mois contre la maladie. Il revient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup de choses à dire.
Oui, Sepp Blatter a choisi Europe 1 pour son premier grand entretien depuis près de 2 ans. Le Valaisan de 85 ans, costume 3 pièces impeccable, aminci après de longs mois passés à l'hôpital, mais offensif, Sepp Blatter a notamment étrillé son successeur, Gianni Infantino.
Il n'est pas un bon président, je dois le dire. Il ne fait pas son travail correctement. Mais comme il ne parle pas avec moi, je ne peux pas parler avec lui.
Voilà, Seb Blatter aimerait, dit-il, réveiller Gianni Infantino, car l'ancien patron de l'instance mondiale voit d'un très mauvais œil le déménagement de son successeur au Qatar. Seb Blatter croit même savoir que la FIFA a pour projet de déménager son siège à Paris, un entretien très riche durant lequel Seb Blatter réaffirme son innocence ainsi que celle de Michel Platini dans l'affaire du FIFA Gate.
Ah oui, il n'envoie pas dire ce qu'il a à dire, hein.
Oui, il est très offensif et sur beaucoup de dossiers, vous allez l'entendre dès ce soir à 20h, il n'a pas sa langue dans sa poche.
Il n'a pas sa langue dans sa poche. Ce soir, on va suivre également Lyon-Saint-Etienne à 21h, l'un des derniers matchs avec la jauge. Hein. Un derby entre deux clubs en crise. Jean-François Pérez, bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Un des deux clubs, Lyon et Saint-Etienne, est un petit peu plus en crise que l'autre.
Hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce monument à péril, c'est l'AS Saint-Etienne, dernier de Ligue 1. Les Verts qui ont fait appel à un spécialiste des missions acquis tout double, c'est Pascal Duprat, l'ancien entraîneur emblématique d'Evian Thonon-Gaillard, une personnalité forte, attachante. Il avait sauvé Toulouse d'une descente quasi certaine en 2016. Il avait rattrapé avec ses joueurs 10 points en 10 matchs. C'était fou, avec notamment une causerie restée dans l'histoire du TFC, captée à l'époque par les équipes de Canal+.
Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Voilà, et ce soir-là, Duprat avait touché le cœur de ses joueurs. Il s'était imposé, il s'était maintenu. 6 ans après, il va tenter de sauver son club de cœur, Saint-Etienne. Et cela passe ce soir par un bon résultat, bien sûr, face à Lyon, dans un rendez-vous, évidemment, pas comme les autres.
C'est le derby en France, celui qu'il ne faut pas rater. D'autant que je ne vais pas en faire beaucoup, donc il faudra être prêt. Et un derby, ça se joue, ça se gagne.
Voilà, avec seulement 12 points en 20 matchs, Saint-Etienne est dans une situation mathématiquement désespérée. Aucun club n'a jusqu'à présent sauvé sa place en Ligue 1 avec de telles statistiques. Pascal Duprat a trouvé un nouveau défi à sa mesure.
Jean-François Pérez, merci beaucoup Jean-François. Lyon-Saint-Etienne, 21h, 12h56. Le temps, la météo. Anissa Haddadi, on a droit aujourd'hui à un froid plus vif et à des nuages. Hein.
Oui, surtout dans le nord-est romain, entre l'Auvergne et la Lorraine, en passant par le Val-de-Saône ou encore la Bourgogne. On a un ciel qui va rester cet après-midi très gris, avec des brouillards. Les brouillards de ce matin qui restent tenaces, qui ont du mal à se dissiper. La neige est toujours là, hein. On aura quelques flocons cet après-midi, à partir de 400 mètres d'altitude dans les Vosges. Plus à l'ouest, sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et même la région parisienne, ça s'améliore avec un petit peu plus d'éclaircies. Mais du vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère. Le vent souffle fort aussi au bord de la Méditerranée. On a du Mistral jusqu'à 90 km/h, mais dans une ambiance très ensoleillée jusqu'en Corse et dans les Alpes. Entre le Pays Basque et la Haute-Garonne, dans le sud-ouest, là on a un ciel qui reste gris avec une atmosphère assez humide. Les températures, elles sont en baisse. 2 degrés à Saint-Etienne et Clermont-Ferrand cet après-midi, 4 pour Aurillac et Lyon, 6 à La Rochelle et Bordeaux, 7 pour Paris, 10 degrés à Montpellier, 12 à Marseille, mais le ressenti sera plus frais avec le Mistral, et 14 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa. Il est 12h57, restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant, c'est La France bouge avec Emmanuel Duteil. Elisabeth Assayag, très bel après-midi sur Europe 1.